valeurs HI 203 et 209, histoire médiévale. Huitième cassette, deuxième phase présentée par Monsieur Neveu.
Le commerce et les villes du 5e au 10e siècle. Les villes d'Occident sont nées à l'époque romaine. Elles ont connu leur épanouissement au moment de la paix romaine en Gaule au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. À la même époque, le commerce s'est développé à grande échelle dans le cadre de l'Empire. C'est un commerce à longue distance, centré sur la Méditerranée, mais aussi sur le réseau des voies romaines et des voies navigables. Les villes romaines sont très souvent situées à des carrefours routiers ou sur des fleuves navigables. Il s'agit d'un commerce lointain, mais aussi d'un commerce régional et local, en particulier autour des villes, autour des capitales de cités, civitates. Le système commercial et urbain de l'Empire romain devait craquer une première fois au IIIe siècle. Ce sont les premières invasions qui entraînent la destruction des villes et la désorganisation des réseaux commerciaux. Pourtant, au IVe siècle, la situation se rétablit. La cassure définitive commence avec le Ve siècle, d'autant que la période troublée devait se prolonger plusieurs siècles. Au cours du Haut Moyen-Âge, nous assistons à la fragmentation politique du monde romain et à l'instabilité politique qui s'ensuit. C'est une période d'invasion fréquente, une période où règne l'insécurité. Autrement dit, des circonstances peu favorables à l'épanouissement du commerce et des villes, qui ont pourtant toujours continué d'exister. Comment donc les villes ont-elles survécu au cours de cette période difficile ? Sous quelle forme le commerce s'est-il maintenu ? Il y a une évolution, d'ailleurs, au long de ces 5 siècles. Bien que j'étudierai dans la première partie la rupture avec l'Antiquité, 5e et 8e siècle, et dans la deuxième partie, une renaissance avortée, 8e, 10e siècle. Première partie donc, la rupture avec l'Antiquité. La civilisation antique était fondée sur la ville, mais c'est une réalité fragile face aux envahisseurs barbares. Les villes vont donc subir de plein fouet le choc des invasions. Ce qui caractérise le Haut Moyen-Âge, c'est d'abord la réduction topographique. D'ailleurs, la principale rupture, je l'ai dit, est au IIIe siècle. Car avant les invasions du IIIe siècle, les villes romaines s'étalaient largement et étaient ornées de nombreux monuments. La conséquence des invasions, c'est une rétraction. On construit une enceinte sur les ruines de la ville du Haut Empire, avec les débris des monuments anciens. Les cités qui subsistent à l'intérieur des murs sont fort petites. Par exemple, Rouen 18 hectares, Paris 10 hectares, Évreux 9 hectares et demi, Tours 6 hectares seulement. Dans la ville, c'est donc l'entassement. Il n'y a plus de place pour les monuments ni pour les demeures luxueuses. L'aristocratie se réfugie à la campagne. Les villes ont mieux supporté les invasions du 5e siècle, car elles ont conservé leurs murailles, le plus souvent jusqu'au 18e siècle. Dans la plupart des cas, le réseau urbain médiéval sera le réseau des villes romaines. Cette survie des villes est-elle due à la persistance de leurs fonctions commerciales ? Ce n'est pas du tout certain. La fonction essentielle à cette époque, c'est la fonction religieuse. L'Église a sauvé les villes romaines en calquant son organisation sur celle de l'administration romaine. À preuve, la Bretagne, où l'Église n'avait pas eu le temps de s'implanter sérieusement, qui a connu une disparition presque totale des villes. Prenons l'exemple de Dijon. Et vous avez un texte pour l'illustrer, Dijon, vu par Grégoire de Tours. Nous allons en faire une explication rapide. De même, regardez le croquis de Dijon que je vous ai fait passer. Présentation de ce texte, il s'agit d'un texte de Grégoire de Tours, qui connaît bien Dijon, sa mère y habita, et il visita lui-même la ville. Les indications de ce texte, très précises, peuvent être vérifiées par l'archéologie. Analyse du texte, je regroupe tout de suite les idées en plusieurs parties. Première partie, le site et la situation. Il s'agit d'une plaine très agréable, les terres sont fertiles, d'après ce que nous dit l'auteur à la ligne 2, Il y a deux rivières, l'Ouche et une autre rivière qui est le Suzon. L'auteur nous indique le rôle économique de ces rivières, la pêche et les moulins à eau qui commencent justement à se développer à cette époque. Vers l'ouest, des collines très fertiles remplies de vignes. Il s'agit de la Côte d'Or. C'est la région du vin de Bourgogne qui existe toujours, bien entendu. Deuxième point, le castrum de Dijon. Une ville de l'importance de Dijon est normalement qualifiée de cité, civitas en latin, c'est-à-dire capitale d'un territoire et siège d'un évêché. Or, Grégoire s'étonne que Dijon ne soit pas appelé cité, ligne 16. Pourquoi ? C'est que le siège de l'évêché est Langres. Or, pourtant, à cette époque, et depuis les invasions, les évêques de Langres résident à Dijon, d'où l'étonnement de Grégoire de Tours. La ville ne porte donc pas le nom de Civitas, mais celui de Castrum, c'est-à-dire forteresse ou citadelle. Ce nom fait directement référence à l'enceinte fortifiée qui entoure la ville. Grégoire de Tours nous renseigne même sur la date de construction de cette enceinte. C'est une tradition rapportée par les anciens et qui fait remonter cette enceinte à l'empereur Aurélien, c'est-à-dire entre 270 et 275. C'est une date fort vraisemblable. Troisième point, l'enceinte, construction et tracé. Grégoire de Tours nous donne des précisions concernant la construction. Ligne 13, pierre de taille jusqu'à 20 pieds, c'est-à-dire environ 6 mètres de hauteur. Ensuite, pierraille jusqu'à une hauteur de 30 pieds, 8,88 m, et largeur 15 pieds, c'est-à-dire 4,44 m. Or, toutes ces indications sont corroborées par le résultat des fouilles archéologiques. De même, les trouvailles archéologiques confirment les indications de Grégoire de Tours en ce qui concerne le tracé de l'enceinte. La petite rivière, c'est-à-dire le Suzon, pénètre dans l'enceinte et arrose l'enceinte par le fossé. Quatre portes aux quatre points cardinaux et 33 tours. Les fouilles ont permis de découvrir des vestiges gallo-romains à l'extérieur du castrum. La ville fortifiée du IIIe siècle avait donc bien subi une réduction topographique. Mais au VIe siècle, la partie close est-elle la seule occupée ? Quatrième point, le suburbium. Pendant longtemps, on a pensé que la vie s'était réfugiée uniquement à l'intérieur des enceintes. Cependant, les fouilles archéologiques ont permis de se rendre compte que le castrum constituait un ultime refuge en cas de siège, mais que la vie continuait en dehors de l'enceinte. À Dijon, par exemple, il existe des lieux d'habitation en dehors de cette enceinte, et notamment autour ou même à l'intérieur des cimetières. Car la législation romaine interdisait d'enterrer dans la ville. Il y a donc à Dijon trois cimetières extérieurs, toujours utilisés à l'époque mérovingienne. Des évêques y étaient enterrés, et même des martyrs. Par exemple, Saint Bénigne, supposé martyr à Dijon. Autour du tombeau de Saint Bénigne, on a construit une basilique. De même, une autre basilique dédiée à Saint Jean. Une troisième à Sainte-Pascasie et une quatrième à Sainte-Floride. Et tous ces lieux de culte sont le point de départ de zones d'habitation, car des habitants viennent s'installer autour des églises et des tombeaux des saints. Ces quartiers suburbains seront plus tard le point de départ du développement de la ville à partir du IXe siècle. Conclusion, l'intérêt de ce texte réside surtout dans la comparaison avec les découvertes de l'archéologie. Elle est très fructueuse, elle est tout à l'avantage de Grégoire de Tours, qui est ici à l'évidence un témoin oculaire. Le cas de Dijon n'est pas isolé, il est très représentatif, au contraire, de ce qui se passe dans beaucoup de villes, dépassant en fait leur enceinte. Un autre exemple, plus proche de nous, c'est celui de Bayeux, je vous ai indiqué le croquis de Bayeux en numéro 2, et vous pouvez comparer. C'est tout à fait semblable avec une cité, une enceinte du IIIe siècle, et trois cimetières, Saint-Exupère, Saint-Vigor et Saint-Louis, qui vont être le point de départ des quartiers d'habitation extérieurs à la cité. Il me faut maintenant examiner l'aspect commercial et, à ce sujet, les thèses de l'historien Henri Pirenne. La question qui se pose, c'est de savoir s'il y a sur le plan du commerce rupture ou continuité avec l'Antiquité. Pirenne est en faveur de la continuité, la thèse traditionnelle étant celle de la rupture. La plupart des marchands à cette époque sont des orientaux, qui sont appelés Syries dans les textes, autrement dit Syriens. Mais il ne s'agit pas uniquement du Syrien au sens moderne. Ils viennent de tout l'Orient byzantin. Ce quasi-monopole exercé par les Orientaux remonte à l'époque romaine. Dans la plupart des villes de l'Occident, des colonies nombreuses d'Orientaux, dont la langue était le grec, s'étaient établies. Ces colonies étaient spécialisées dans le commerce lointain. Et en particulier, dans le commerce méditerranéen. C'est un commerce qui est basé sur des produits de luxe, importation d'épices, d'étoffes précieuses, de cuir, d'huile d'olive, de papyrus d'Égypte. Tout ce commerce se fait évidemment à travers la Méditerranée, où il alimente en particulier des bureaux douaniers comme ceux de Marseille et de Fos dans le cadre du Royaume franc. Cette prépondérance des marchands orientaux continua pendant le 6e et le 7e siècle. Mais dans la deuxième moitié du 7e siècle, la conquête arabe va occuper les terres d'origine de ces marchands syriens. La première conséquence est un afflux vers l'Occident de nombreux réfugiés, et ensuite la raréfaction des mentions de Syriens dans les textes jusqu'à leur disparition complète dans la deuxième moitié du 8e siècle. Voici les faits établis. Voyons maintenant quelles sont les thèses de Pirenne exprimées pour la première fois en 1922. L'idée maîtresse, c'est que la civilisation antique a continué après les invasions germaniques. Autrement dit, l'unité méditerranéenne continue et même une certaine prospérité commerciale manifestée par la présence des Orientaux. L'essentiel de la culture romaine a continué, et selon l'expression de Pirenne, l'Orient est le facteur fécondant. La rupture de l'ordre antique est due à l'avance de l'islam. C'est la séparation définitive de l'Orient et de l'Occident. Une autre religion, une autre culture dans tous les domaines. L'Occident est donc forcé de vivre en vase clos. C'est la décadence mérovingienne. Et même le nouvel empire carolingien se situe dans le cadre de cette décadence. Mahomet est le véritable destructeur de la civilisation romaine. Charlemagne est le vrai créateur ou le représentant symbolique du nouvel état de choses, d'où le titre de l'article de Pirenne en 1922, Mahomet et Charlemagne. On peut discuter, bien entendu, ces thèses de Pirenne. Et nous allons examiner rapidement les principales objections qui leur ont été faites. D'abord, pour Pirenne, le commerce des Syriens est signe de prospérité. Or, en fait, il s'agit d'un commerce unilatéral, dont la conséquence est une hémorragie d'or. La prépondérance des Orientaux est peut-être, contrairement à ce que pensait Pirenne, un signe de décadence commerciale. D'autre part, Pirenne a négligé d'autres aspects du commerce, par exemple le commerce de la façade atlantique, fondé sur le vin, le sel, l'huile, etc. Deuxième point, à partir du 8e siècle, les Syriens disparaissent bien des textes, mais ils sont remplacés par des Juifs et par des marchands indigènes appelés dans les textes mercatores ou négociatores. Troisième point, d'après Pirenne, à partir du 8e siècle, on est obligé d'attirer les marchands devenus très rares par des privilèges exorbitants, par exemple le précepte des marchands dont nous parlerons tout à l'heure. Oui, mais cela prouve néanmoins que le grand commerce continue. Quatrièmement, le choix des denrées provenant de l'Orient est singulièrement rétréci. C'est vrai, mais il reste encore un certain nombre de produits orientaux comme les épices, les parfums, les étoffes de luxe. Cinquièmement, La Méditerranée occidentale tout entière est entre les mains des pirates arabes. C'est vrai, mais il subsiste toujours un trafic vers l'Orient par la route de la Méditerranée orientale, par l'Adriatique, contrôlée par les Byzantins, par la route du Danube et aussi par la voie du commerce nordique. Sixièmement, l'aspect monétaire. Pour Pirène, l'hémorragie d'or de l'Orient vers l'Occident entraîne, au début du 8e siècle, la disparition du monnayage d'or. Oui, mais l'hémorragie d'or prouve que le commerce était unilatéral et pas si florissant que cela. Conclusion, nous pouvons retenir des thèses du Pirène une idée essentielle. Il y a un grand changement entre l'économie mérovingienne et l'économie carolingienne. La première continue l'économie antique, la seconde est entièrement nouvelle. Mais ceci ne veut pas dire que l'économie mérovingienne soit florissante, bien au contraire. Il y a une différence de nature, certes, mais un volume des échanges comparable. Ceci nous amène à la deuxième partie, intitulée « Une renaissance avortée », la période du 8e au 10e siècle. La période carolingienne est marquée à ses débuts par une renaissance, mais renaissance limitée dont il ne faut pas exagérer l'importance. D'abord, les marchands, les acteurs du commerce. Les marchands étaient au centre de la controverse ouverte par Pirène. Nous avons vu que les Syriens sont remplacés par des marchands juifs ou indigènes. Nous pouvons considérer que les marchands au 9e siècle, par exemple, formait un groupe non négligeable. Nous connaissons notamment l'exemple des marchands de Verdun qui ont pratiqué le commerce d'esclaves sans interruption vers l'Orient musulman, etc., essentiellement du 6e au 10e siècle. Nous avons un texte à ce sujet qui vous a été donné, le précepte des marchands. Je l'explique rapidement. Il s'agit en fait d'une lettre de protection accordée par l'empereur Louis le Pieux en 828 à un certain nombre de fidèles. C'est la forme classique d'un diplôme. Une analyse rapide. D'abord, quels sont les termes du contrat entre les marchands et l'empereur? C'est un engagement des marchands, qui sont appelés fidèles car ils entrent dans le réseau de la fidélité impériale. Ils devront venir au palais tous les ans ou tous les deux ans au moment de l'Assemblée Générale. En échange, ils obtiennent de nombreux privilèges. D'abord la protection de l'empereur, puis ils sont dispensés d'un certain nombre d'obligations, les réquisitions, le service militaire, l'étonlieu et péage. L'étonlieu étant les droits indirects perçus sur le commerce par l'empereur, avec quelques exceptions que je n'ai pas le temps de détailler. Dispenser également des exactions des agents royaux et même de la justice ordinaire. Ils sont directement justiciables de l'empereur, ce qui est un privilège considérable. Notons au passage l'allusion aux juifs, ligne 25, qui jouissent certainement aussi de privilèges particuliers, mais nous n'avons pas conservé de texte. Ces privilèges nous semblent exorbitants. Comment pouvait-il faire les affaires de l'empereur en même temps que celles des marchands, comme le dit le texte, ligne 14. Ceci m'amène à la deuxième partie, le commerce à la cour impériale, la signification du contrat, bien sûr, deuxième partie de l'explication. La mention de la chambre, qu'on peut traduire par trésor, permet de comprendre de quel type de commerce il s'agissait. La chambre, nous le savons, c'est le service du palais auquel est confié le ravitaillement en objet, si l'on peut dire. C'est un véritable bric-à-brac. La chambre est approvisionnée par les cadeaux que fidèles et vassaux doivent apporter lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le but du précepte, c'est d'attirer à la cour, au moment de cette Assemblée Générale, des marchands de produits de luxe. Le chambrier pourra prélever tout ce dont l'empereur aura besoin, et les marchands pourront écouler le reste de leurs marchandises auprès des aristocrates présents. Ainsi s'expliquent les privilèges accordés à des fournisseurs de la cour. Mais l'empereur est obligé de les attirer par ces privilèges réellement exorbitants, car ces marchandises sont rares. Conclusion de l'explication. Les marchands professionnels sont peu nombreux, ils ne forment pas une classe sociale importante, ils n'ont pas de véritable place dans la hiérarchie sociale. Bien qu'ils fréquentent l'empereur et les grands, aucun n'est entré dans la haute société. C'est une classe de trafiquants et de fournisseurs occasionnels, certainement méprisés, mais néanmoins indispensables. Deuxième point, grand commerce et commerce régional, toujours au sein de la deuxième partie. Une grande partie des controverses entre historiens provient du fait qu'on s'est occupé presque uniquement du grand commerce international. Or, on a négligé, comme je le disais tout à l'heure, à propos des tests de Pyrène, le vaste espace économique nord-européen créé par les Vikings. D'une part, les pirates Vikings, surtout danois, pillent, colonisent certaines régions d'Occident. D'autre part, les marchands-soldats varègues, surtout suédois, commercent avec l'Orient à travers la Russie. Enfin, les Norvégiens s'établissent en Écosse, en Irlande, et vont jusqu'en Islande, au Groenland et probablement Amérique du Nord, ce qu'ils appellent Vinland, la terre du vin. Cet espace communique avec l'espace franc par des ports comme Dorestad, puis Tiel, Hambourg et Brême. Ce commerce à grande distance a retenu l'attention des historiens, mais il ne touche qu'une clientèle très restreinte. Au contraire, le commerce régional intéresse des couches beaucoup plus larges de la population. Les principaux produits, surtout alimentaires, concernés par ce commerce sont le blé, le vin, le poisson, le sel. On a des exemples de ce commerce régional dans le bassin parisien avec le développement des foires autour d'une marchandise essentielle qui est le vin. Voyons également à cette époque l'aspect urbain. Il y a de façon évidente une renaissance urbaine, avec l'apparition de nouveaux quartiers dans les villes ou à l'extérieur des villes préexistantes. Ces nouveaux quartiers sont appelés soit burgus en latin ou bourg en français. Il s'agit d'un habitat privilégié qui se développe en marge d'un habitat préexistant, soit portus, autrement dit port, il s'agit là d'un habitat purement marchand qui se développe à proximité d'une voie d'eau. Je vous ai donné plusieurs exemples sous forme de croquis. Voyons par exemple le cas de Verdun. Auprès de la ville ancienne, de la cité romaine, vous avez un portus au Xe siècle qui est appelé dans un texte de Richer, Claustrum Negotiatorum. Il est situé près d'une voie d'eau qui est ici la Meuse. On a d'autres exemples, Kantevik et Dorestad, cité dans le texte, Dombourg, en Zélande, alors près de la mer Baltique, en dehors de l'espace carolingien, et de Bi, au Danemark, et Birka, en Suède. Ces portus sont construits en bois et par conséquent extrêmement fragiles. Les bourgs, au contraire, sont principalement monastiques. La plupart du temps, ils sont établis dans le suburbium, à côté de villes anciennes, et ils deviennent rapidement des quartiers d'habitation. Lors des invasions scandinaves, ces bourgs sont les premiers attaqués, et le plus souvent, ils finissent, s'ils ne disparaissent pas, par se munir de murs qui les protégeront. On assiste donc à la création de villes à deux noyaux. Je vous ai donné deux exemples dans les croquis, numéro 4 et numéro 5. Numéro 4, c'est l'exemple de Tours, avec le bourg de Châteauneuf, dont l'enceinte date de 903, autour de l'abbaye de Saint-Martin, et à quelques distances de la cité. Deuxième exemple, c'est celui de Reims, avec le bourg de Saint-Rémy, à proximité de la cité, dont l'enceinte date de 925 environ. Une des questions qui se pose, c'est de savoir d'où viennent les habitants des nouveaux quartiers. L'archéologie a renouvelé le problème. Car la cité, subit des transformations à l'époque carolingienne. On a l'illusion de disposer d'assez de temps pour remodeler les noyaux urbains. Par conséquent, on agrandit l'une des églises du groupe cathédral, on construit des bâtiments particuliers pour les chanoines, on remodèle donc le quartier de la cathédrale. Une partie de la population du centre est donc obligée de s'exiler vers l'extérieur. D'autre part, c'est la paix carolingienne, on croit donc qu'on peut démolir les murailles. Il faut demander l'autorisation du roi, mais Charlemagne, à la fin de son règne, accorde des concessions pour détruire les murailles. La plus tardive, paradoxalement, est en plein milieu de la période des invasions normandes, en 859, pour Melun. Mais on fait vite machine arrière, bien entendu. On peut donc penser que la plupart des habitants du suburbium ne correspondent pas à un accroissement de la population, mais simplement à un déplacement de la maigre population de la ville, du centre vers l'extérieur. Enfin, que deviennent les villes lors des invasions normandes? On les fortifie à nouveau, on essaye, on l'a vu, de fortifier l'un des bourgs, souvent le plus important, et c'est un nouvel entassement à l'intérieur des murs, car les villes sont le dernier rempart contre les Vikings. On peut prendre l'exemple de Poitiers, la ville est prise par les Vikings en 857, 863, 865, mais enfin, en 868, les Normands sont battus. Et on construira au début du Xe siècle une enceinte pour protéger le bourg de Saint-Hilaire, c'est le croquis numéro 6. La renaissance urbaine de l'époque carolingienne est donc sans doute une renaissance avortée. Mais on a réussi à sauvegarder l'essentiel. Conclusion, en ce qui concerne le commerce et les villes, du 5e au 10e siècle, il faut distinguer deux périodes très différentes. Premièrement, 5e et 8e siècle, c'est la continuation de l'Antiquité, mais avec une profonde décadence. Deuxième période, 8e, 10e siècle, c'est la rupture avec l'Antiquité, une timide renaissance, mais bientôt arrêtée par les nouvelles invasions. Cependant, cette renaissance n'est pas entièrement brisée, c'est la préfiguration du grand essor des 11e, 13e siècle.